J'améliore l'aspect ou le goût et j'assure la conservation. Je facilite la mise en forme et l'administration du principe actif. J'ai toujours l'aval de l'OMS, vous savez, l'organisation matinale du son. Je suis Jean-Jean, l'excipient. Bien le bonjour, auditeur, auditrice. Mardi 5 avril 2022. Bonne fête, Irène. Au sommaire de cette matinale, une fois n'est pas coutume, nous poursuivons des échanges avec une de nos invitées de la dernière émission. De vous à nous, on vous dit presque tout. Souvenez-vous. Ouais, c'était la semaine dernière. C'est l'équipe des seniors qui, effectivement, travaille sur leur émission et qui produisent cette émission une fois par mois. Elle est diffusée le dernier jeudi du mois. Et la semaine dernière, eh bien, dans le cadre de la thématique du handicap, eh bien, nos animateurs recevaient Marie-Hélène Dupoux. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour à tous.
Merci infiniment d'être parmi nous ce matin, de bonne heure, de bonne humeur. Ça pique un peu le matin quand même, hein.
Eh bien, je fais une matinale, mais pour tout dire, je ne suis pas vraiment matinale. C'est donc une exception là que je fais.
Moi non plus. Mais j'aimerais tellement que ce soit en rediffusion, qu'il ne passe que la rediffusion vers 22h. Mais une matinale à 22h, c'est un peu compliqué cette histoire-là. Alors Marie-Hélène, effectivement, il y avait tellement de choses à dire sur cette émission de jeudi dernier. Beaucoup de choses. Vous étiez invitée en tant que témoignage, j'ai envie de dire, quelque part. On réécoutera d'ailleurs tout à l'heure un petit extrait de cette émission pour redémarrer. Et puis voilà, et vous êtes venu avec un livre dans votre besace, puisque vous êtes également en dehors de votre activité. On en parlera également. Voilà, c'est aussi une passion pour le sport, une passion pour plein de choses. Et puis également, vous écrivez. Voilà, et vous venez de publier il y a peu de temps votre un polar. Hein, n'ayons pas peur des mots.
Sanglant, n'ayons pas peur des mots.
Exactement, et c'est pour ça. Et ce matin, et on s'est dit, bah tiens, écoutez, Marie-Hélène, on n'a pas suffisamment parlé jeudi, et bien on vous réinvite, et puis comme il vaut mieux battre le fer quand il est chaud, et bien vous reviendrez la semaine prochaine, c'est-à-dire ce matin. Vous êtes en direct dans les studios de Principe Actif, à l'écoute de Rouen HDR, du côté de nos amis rouennais également. Voilà, c'est ça, c'est dit, c'est fait. Vous êtes avec nous durant toute cette heure de matinale. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Eh bien, il y aura des chroniques. Alors là, deux chroniques pour le prix d'une. Voilà, c'est pareil, une fois n'est pas coutume non plus. L'ami Steve sera ce matin parmi nous pour une chronique musicale. Et puis Fred Grimaud, qui d'ailleurs nous fera un petit coucou d'au revoir, puisque c'est sa dernière chronique ce matin. Il aura l'occasion de nous en parler également. Il y aura de la musique, du bon son. Voilà, enfin, vous écoutez Principe Actif, Rouen HDR, c'est le 102.4 sur Évreux, c'est le 95.9 dans le sud du département de l'Eure, et puis 99.1 sur le bassin rouennais. Mesdames et messieurs, bonne journée, excellente matinale à l'écoute de nos programmes. Et ben voilà, on a tout dit, on a tout fait, c'est parti pour cette heure de matinale.
Ouais, Jean-Jean Rouennais.
Now you know the game.
absent ce matin. We Insist, c'est un duo, c'est un groupe qui sera présent dans le cadre de Ça sonne à la porte. Voilà, on a donc toute cette programmation puisqu'elle a été annoncée la semaine dernière. Nous avons fait un spécial Ça sonne à la porte hier matin avec Michel Hubert qui est le DJ qui va un peu mettre l'ambiance, ambiancer la fin de soirée du samedi. Et comme ça, durant les matinales jusqu'au 11 et 12 juin prochain, nous vous diffuserons quelques extraits des groupes, des artistes qui seront présents sur ce festival Ça sonne à la porte. Oui, Inside, et ce titre est Digital Finger, tout simplement.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, t'es mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Est-ce qu'il y a du répondeur ? Il n'y a pas de répondeur ce matin. Ben, ce sont des choses qui arrivent, effectivement. En tous les cas, vous nous laissez vos messages sur le 02 32 62 57 32. Pourquoi faire ? Ben, vous donnez vos avis, vos réactions, des informations locales, des coups de gueule, des coups de cœur, des remarques ou bien des annonces d'événements, tout simplement. Ou alors, simplement de vos nouvelles. Bonjour, je suis auditeur de Principe Actif, Erwan HDR, je vais très bien, je vous embrasse et bonne journée. Ça nous fait plaisir aussi. Je vous rappelle le numéro de téléphone 02 32 62 57 32. Allez, dans quelques instants, l'ami Steve pour sa chronique musicale, mais juste avant, Mademoiselle Lottie, qui sera également présente sur le Ça sonne à la porte.
J'attends un squat de qualité, des gens qui comptent, sur qui on peut compter. J'attends le sourire de ma mère depuis presque l'éternité. Motrice qui m'emmène en voyage loin du pays. New York, Paris, Paris, Le Havre, Paris, Bali. J'attends que mon cœur s'apaise, je veux pas que les flammes l'emportent. J'attends que ça parle moins de putes et plus de femmes fortes. Fuck, j'ai envie d'exil au pays des droits de l'homme. Mais je fais pas partie de la norme. Ne m'en veux pas, promis, je reviens pour ton anniversaire. Je suis sur la route, coin de paradis, dans le sud de l'univers. Je te fais coucou, mais tu me vois pas. Je suis chez Zaza à Porto Rico. Je suis quelque part dans le creux du monde, ça change du comptoir de McDo. Baby, emmène-moi ça, presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme apaise, je peux toujours traîner ma peine toute la vie. J'en crève d'envie. Si j'attends que le calme apaise, je peux toujours crâner ma peine toute la vie. Baby, emmène-moi sans presse. Baby, emmène-moi, j'en crève d'envie. Si j'attends que le calme apaise, je peux
C'est joli, ça.
Quoi?
Ce qu'on écoute là en ce moment.
Oui, c'est bien, je connais pas, mais c'est tout ça, c'est
ouais.
joli.
Elle s'appelle Loti, c'est une rappeuse. Ce titre-là, c'est Sérénité. Elle fera partie également, on l'a dit à l'instant, de la, ben voilà, de la sélection pour le Ça sonne à la porte des 11 et 12 juin prochain.
Le bien reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HBR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Et petit jingle. Steve,
c'est pas un 10 de ton Mozart.
Non, mais c'est Steve, au bout du fil pour sa chronique musicale.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors ce matin, je vais vous parler de Derek and the Dominos avec l'album Layla and Over Assorted Love Song.
Oh,
alors,
ça nous rajeunit derrière... pas ça.
Ah non, c'est... Non, un petit peu, bon, c'est pas si vieux que ça. Alors Derek and the Dominos, c'est un groupe de blues rock britannique, donc originaire de Londres. Il est formé par Eric Clapton, en fait, c'est vraiment Clapton qui se cache derrière Derek and the Dominos. Alors c'est un groupe éphémère qui ne dure qu'un an, entre 70 et 1971. Alors, durant cette courte carrière, la formation a sorti l'album donc Layla and Over Assorted Love Song et a pris part à l'enregistrement de l'album de George Harrison, All Things Must Pass. Alors, l'origine du nom du groupe est expliquée par Clapton lui-même, en fait, dans son autobiographie Clapton par Clapton. Dans notre excitation, dit-il, à former le groupe, un détail nous avait échappé. Et jusqu'à la dernière minute avant de monter sur scène, on n'avait pas de nom. Et donc, Ashton, Garner et Dick assuraient la première partie. Et donc Tony Ashton, qui produisait, qui faisait partie de la troupe, qui surnommait de temps en temps Dell, ce nom-là qu'on appelle Dell and the Dominos, et il les présenta sans mentionner qu'ils étaient donc Clapton et tous les restes, il les présenta sous le nom de Derek and the Dominos, et qui devait rester. Alors grâce au succès de la chanson-titre Layla, ce double album, même s'il était un échec, il faut dire à l'époque, est désormais considéré comme un classique du rock. Eric Clapton... lui-même se cache en réalité derrière Derek. Après avoir travaillé avec les Yardbirds, John Mayall, les Blues Breakers, Cream et brièvement avec Blank Face, celui-ci engage des musiciens et crée son propre petit bijou en solo. Alors en compagnie d'Derek, on retrouve les Dominos, alors c'est trois Américains, donc Bobby Whitlock au clavier, Carl Radell à la basse et Jim Gordon à la batterie. Alors, c'est tous d'anciens membres de Delaney and Bonnie and Friends, un ensemble assez fluctuant auquel avait participé Clapton. Alors la plupart des chansons résultent ici de jam sessions, où tout joue dans un style très dépouillé. Alors le coup de génie de Clapton, c'est d'avoir invité Duane Allman à les rejoindre. Alors la guitare slide se déchaîne sur le morceau titre, et durant l'un des riffs les plus mémorables du rock, même Tom Wood, producteur qui était assez dur, est impressionné. Il dit lui-même, quand j'ai eu fini, a-t-il révélé, je suis sorti du studio en disant, ce fichu album est le meilleur que j'ai enregistré en 10 ans. Et donc Layla a atteint la 7e place de sa sortie et grimpera de 3 places de plus lorsqu'il sera réalisé 10 ans plus tard. Alors la chanson d'amour Layla, non partagée, s'inspire de Patty Boyd, la femme du meilleur ami de George Clapton, donc qui était George Harrison. Donc l'album lui sert d'exutoire à sa passion frustrée et ses interprétations énergétiques des titres marquants du blues de Big Bill Bondy à Hendrix sont désormais des classiques à part entière. Et donc je vous laisse sur le magnifique titre Layla.
Merci l'ami Steve, qu'on retrouvera maintenant le mardi je crois. Hein
oui, tout à fait, ouais.
Merci. Oui. Merci, voilà. Merci Monsieur Vinilenko. À très très bientôt. Au revoir.
Do it, you call me. Nobody's waiting by me.
Cake and the Dominoes et ce titre Layla, voilà, c'était la chronique de Mister Steve.
Il est l'heure, l'heure de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
8h10, 9h, sur HDR et Principatif.
Ouais, c'est bien nous, c'est bien nous. Nous sommes de retour ce matin à 8h passées de 20 minutes et en compagnie de Marie-Hélène. Marie-Hélène Dupour, rebonjour Marie-Hélène.
Rebonjour.
Encore merci d'être passé par les micros de Principe Actif et à l'écoute de Rouen HDR également pour cette matinale. Le pire reste à venir, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans le sommaire de l'émission, eh bien, vous étiez invité la semaine dernière dans le cadre de l'émission de nos seniors, de vous à nous, on vous dit presque tout. Voilà, comme chaque mois, c'est une émission mensuelle. À la fin du mois, il y a toujours une thématique qui est abordée. Donc, nos amis, nos animateurs travaillent bien évidemment dans les ateliers durant tout le mois et puis présentent leur émission en direct de la Maison de la Santé à Évreux, dernier jeudi de chaque mois. Et vous étiez présente et vous aviez beaucoup de choses à dire. Et une heure d'émission, c'est très très court, bien évidemment. On n'a pas pu dire tout ce qu'il y avait à dire. En plus, vous étiez venu avec un livre. L'idée, c'est de se dire, on va vous réinviter, Marie-Hélène. Alors, comment on dit ? On dit MHD, Marie-Hélène ?
On dit comme on veut.
Dans le milieu sportif, parce qu'en fait, vous avez plus d'une corde à votre arc, j'ai cru comprendre. Vous êtes une fana de sport, notamment de basket. Vous avez pratiqué aussi le patinage. Vous êtes, on le dit, hein, je vous présente comme ça, vous êtes avocate de formation. Oui. Vous êtes toujours en activité, Marie-Hélène ?
La profession d'avocate, c'est une profession qu'on peut exercer pendant un moment, mmh. arrêter, reprendre. En fait, c'est un tatouage qui se voit pas pour la vie, ça s'appelle avocate.
Donc effectivement, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Sur une autre période du temps, dans d'autres moments de votre vie, vous écrivez.
Oui, parce que ce livre dont vous parlez, ça casse pas trois pattes à un cadavre, je l'ai écrit il y a 23 ans.
Ah oui !
Mais j'ai pas trouvé d'éditeur. Mm-hmm. Et c'est juste maintenant à Évreux que j'ai trouvé un éditeur en la personne de Martial Ménadier qui s'occupe de la collection Le Parc. Mm-hmm. Il est là, il est à côté, hein, il est à Gravigny.
D'accord.
Et j'ai eu de la chance parce que c'est plutôt un homme qui est tourné vers la poésie. Cette collection Le Parc, il l'a créée pour rendre hommage à sa mère Blanche Ménadier, qui est d'ailleurs référencée à la bibliothèque nationale de France en tant que poétesse. Mmh. Et par la suite, il a développé cette collection au travers de ses rencontres, de ses connaissances, mais toujours plutôt axé sur la poésie.
Bon, on n'est pas dans la poésie, là.
Hein. Alors justement, Martial, si tu m'écoutes, je voulais te remercier d'avoir l'esprit aussi large.
Oui, bien sûr.
Parce que non, là, côté poésie, c'est un peu raté.
Bon, mais à côté, il y a effectivement, il y a un style qui est le vôtre, qui vous est propre. Et on va en parler durant cette heure-là. Je voudrais revenir simplement sur un extrait de l'émission qui a été diffusée la semaine dernière en direct pour un petit peu, pour vous repositionner un petit peu pourquoi vous étiez invité. Également, si vous voulez, on peut en parler peut-être.
Absolument.
Par rapport à cette thématique des personnes handicapées, parce que c'est votre cas.
C'est mon cas, je l'assume.
Voilà, exactement. Et juste écouter un extrait de cette émission de Vous à nous, on vous dit presque tout et on en parle juste après.
La famille m'a connue que comme ça, donc au bout d'un moment, on voit plus le handicap. Marie-Hélène, elle arrive comme ça, elle est comme ça, c'est tout.
C'est déjà une bonne chose que les parents se comportent comme des parents normaux. Quoi.
Ce qu'ils se sont dit, je crois, avec beaucoup d'intelligence, c'est que s'ils ne m'intégraient pas comme quelqu'un de normal, puisque pour le reste tout allait bien, c'est jamais qu'un petit morceau qui manque, si on prend de ce côté très positif. Ils se sont dit que s'ils m'empêchaient de faire des choses, s'ils avaient peur de ne pas me laisser tenter ce que j'aimais faire, à moi de voir si je pouvais, si je ne pouvais pas. Après tout, quelqu'un de normal ou quelqu'un comme moi a des limites. Il ne peut pas pratiquer certains sports, ou il n'aime pas certains sports, ou il n'a pas les qualités physiques pour les pratiquer. On a tous des limites. Qui, mesurant 1m50, a envie de devenir un mannequin à côté de Claudia Schiffer? Oui, on a envie, mais ça ne se fera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous nos limites. Et j'ai eu des parents suffisamment intelligents et aventuriers et audacieux qui m'ont laissé tout en m'encadrant, en fait. Et c'est eux qui, par exemple, voyant que je débordais d'une énergie qui ne m'a jamais quittée, d'ailleurs, m'ont emmené à la patinoire d'Évreux quand j'avais 10 ans. C'était Edith Ballester, un prestigieux professeur de patinage, qui est officier dans cette petite patinoire. Cette patinoire, c'est le comptoir Elbevien. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent.
Oui, moi. Oui.
Le bar était aussi grand que la patinoire. Hein, alors, donc, ça allait, on pouvait quand même s'entraîner, même si la patinoire était petite. Et ils ont rencontré Edith Ballester. Ils lui ont dit, bon, voilà le cas. Elle est super active. Il faut quand même qu'on lui trouve un truc à faire qui lui plaise. Alors, bon, elle a dit d'accord. Elle n'a même pas hésité une seconde, parce qu'on croise des gens formidables aussi sur ces aventures. Hein. Et ils sont revenus. J'étais au milieu de la patinoire.
Voilà, vous étiez au milieu de la patinoire à l'époque.
Oui, c'est vrai, ils me cherchaient partout. Je pense assis sur un banc en les attendant. Bon, bah, c'est pas ça que je vais faire, c'est sûr. Non, j'étais au milieu de la patinoire et puis j'avais croisé 2-3 personnes avec lesquelles je papotais au milieu de la patinoire.
On est dans le début des années 70, ça, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes une enfant d'Évreux, en fait.
Je suis née à Évreux. Ouais. Mes arrière-grands-parents étaient. Et sont venus d'Espagne et se sont installés à Évreux. Ils étaient marchands de fruits et légumes en gros.
Oui.
Et je crois qu'en plus, ils avaient une petite boutique là où il y a le relais de la poste actuellement.
D'accord.
Mes grands-parents ont poursuivi. Papa a poursuivi et je vis actuellement dans la maison de mes arrière-grands-parents qui a été occupée après par mes grands-parents et après par mes parents, donc j'y suis toujours.
D'accord, donc primeur, maraîcher, non pas maraîcher, mais
primeur,
revendeur, voilà.
Voilà, et en fait quand il n'y avait pas les circuits de distribution étaient différents, il n'y avait pas de supermarché, ils ravitaillaient toutes les petites épiceries du département.
Et le fait de vous destiner au métier d'avocat, est-ce que c'est une façon de vous occuper ou de défendre les grosses légumes? Non, ça n'a rien à voir.
Non, et franchement, si on m'en avait laissé la possibilité, je ne serais pas devenue avocate, je serais devenue chanteuse, j'aurais fait de la scène.
Ouais, ouais.
Et ça m'a jamais lâchée. J'adore chanter, j'adore la musique. J'aurais peut-être fait aussi du comique parce que, il faut le dire, je suis très drôle, même si j'en ai pas l'air quand on me croise, mais je suis très drôle. Et je faisais déjà des sketchs à mes parents, aux copains de la patinoire quand j'avais 12-15 ans. Ça, c'est quelque chose qui est aussi fait depuis longtemps partie de ma vie, quoi.
Donc, plein de palette, plein de panels différents, ça va de l'art vivant en passant par le sport, puisqu'on l'a dit, donc vous avez pratiqué jeune le patinage et puis vous avez même été championne de Normandie, je crois.
J'ai été 2 fois championne de Normandie, ouais. Alors c'était une époque où il n'y avait pas les championnats handisport.
Ouais, ça n'existait
donc,
pas.
Bah non, ça n'existait pas, alors donc, il fallait faire ça avec les valides.
Ouais, c'est ça, voilà.
Bon. Alors, j'ai gagné devant les valides. Quelles empotées, ces valides.
Et effectivement, et aujourd'hui, donc vous faites partie du sixième homme. Alors, vous pouvez nous en dire deux mots,
oui.
Du sixième homme de l'ALM Basket?
Alors, le basket, ça a été tout à fait par hasard, mais je cherchais à concilier ces deux choses que j'aime, peut-être trois, on va dire. Un, l'écriture, deux, l'humour, et trois, le sport. Et il s'est trouvé qu'à l'époque où j'ai demandé au volleyball, il ne voulait pas. Après, je n'avais pas beaucoup le choix. Et puis, par le plus grand des hasards, j'ai un ami qui, à l'époque, avait son propre site. Mm-hmm. Parce que lui, c'est un vrai basketteur, un vrai quelqu'un qui s'y connaît, contrairement à moi. Et je lui ai envoyé 2-3 textes. Il m'a dit « Ah bah, c'est banco ». Donc je croise le jeudi et le mardi suivant, j'ai mon billet pour le premier match, un peu comme pour le championnat de Normandie, ouais, de patinage, voilà. Des trucs voilà, comme ça. Ouais. Et ça fait, bon, sans compter la pandémie, ça fait pratiquement, oh non, ça fait 12 ans que je fais ça. Mm-hmm. Alors au départ, il s'agissait de faire des petits textes humoristiques. Bon, et ben, ça a fonctionné. Ensuite, je me suis dit, oh, moi, je vais pas rester qu'à faire ça. Je vais les interviewer, moi, les grandes bestioles, ça va être rigolo.
Alors, l'écriture vous est chère déjà, effectivement, par le biais de ces petits, de ces petites morceaux, ces petites chroniques ou ces petits textes humoristiques.
Oui.
Et après, puis, l'idée, c'est de...
L'idée, ouais. Ça a été de pas rester à faire ça tout le temps.
Ouais.
Et de dire,
et de rencontrer les sportifs et les joueurs.
Oui, ouais. Oui. Et il faut dire quand même que comme papa a été un international du disque, mm-hmm. Du lancer du disque, depuis que je suis toute petite, on a des sportifs à la maison.
D'accord.
Des lanceurs en général. Bon, pour les plus âgés, on dira Colnard, on dira Valérie Vili, qui vient de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande, pardon, et qui a été championne du monde, championne olympique, enfin bon, voilà. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de monde dans le jardin.
Tout ce petit monde gravitait un peu à la maison.
Pour moi, ce déjeuner, dîner avec des sportifs, c'est des souvenirs extraordinaires, parce qu'ils sont marrants. Hein.
Oui.
Bon, déjà... c'est très copieux parce que faut les nourrir, hein. Et puis, ils ont
c'est que ça mange bien, ces bêtes-là.
Oh là, ces bestioles-là, ça mange, mais ouais. Ça mange. Voilà.
Et puis donc, après, le petit côté troisième mi-temps, enfin, je dis troisième mi-temps, mais enfin, peut-être pas dans tous les sports, mais quand même, il y a le petit côté, comme vous dites, sympa et bonne ambiance.
Oh bah oui, et puis moi, je me souviens de week-ends qu'on a fait à Toulouse avec le meilleur pote de papa, qui lui était lanceur de javelot. Lui, il a été jusqu'en Amérique, enfin, il a fait une carrière tout à fait exceptionnel. Et il avait réuni un tas de, entre guillemets, vieux champions.
Ouais.
Mais ce petit déjeuner, mais qu'est-ce qu'on a ri, C'était le sport, ça crée des liens tout à fait particuliers. Mm-hmm. Et ça dégage, je parle pour moi, des émotions tout à fait extraordinaires, quoi. Ça chavire, c'est extraordinaire, le sport.
Marie-Hélène, je vous propose de faire une petite pause musicale. Je vous ai demandé des titres, donc vous êtes venu avec des titres et des artistes à écouter. On y va et on en parle juste après.
Tracy died soon after a long fought civil war. Just after a white whale's last tune. Maybe he's better off than he was before. Old lot better off than the fools he left here. Oh, I used to cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. I used to cry for Tracy, 'cause I wanted to see him again. Oh, oh. But sometimes life ain't always. Oh, sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. So bad. Sometimes I wish that life was never ending, but all good things
existed in the past. All good things existed ever last. Love, it is a love. Till it hangs.
Magnifique.
Thank you all so much.
On peut en parler de ce titre, de cet artiste.
Découvrir Prince pour moi, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui avait pratiquement mon âge, quoi. Il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. Mm-hmm. Mais découvrir Prince, ses extravagants costumes, ses magnifiques girls dont il s'entourait, ça a été comme une déflagration, quoi. Mm-hmm. Ça a fait oh là 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 là, c'est pas possible. Et Prince est vraiment un de mes chanteurs préférés. Je suis allée le voir, bien sûr. J'ai pratiquement tous ses albums, je pense. Pas les derniers, là, mais comme il a laissé pas mal de titres dans son coffre-fort au sous-sol de sa maison.
Oui, voilà,
de
c'est ça. Tous les ans, il pouvait ressortir des albums.
Alors là,
il y avait des centaines et des centaines de morceaux.
Ah oui, il n'arrêtait pas. Il travaillait tout le temps. Ouais. Bah oui, c'est... J'adore cette chanson particulièrement, et puis je trouve qu'elle colle à l'actualité. Bah, parce
on est
que,
raccord là. Hein.
Bah oui, complètement.
Ouais.
Parce que c'est Prince qui pleure la perte de son ami Tracy, qui est mort à la guerre. Donc, et puis c'est poétique déjà de dire il neige en avril.
Bon, aujourd'hui. C'est pas faux d'ailleurs.
C'est pas, oui.
Mais pas que.
Mais pas que. Aujourd'hui, exactement. C'est plutôt dramatique, ouais. Pas seulement pour ce qui se passe en Ukraine, mais également pour ce qui se passe chez nous, pour nos agriculteurs, nos vignerons. C'est une chanson que je trouve tellement d'actualité, tellement belle. Même la musique est poétique, même c'est, comment on appelle ça? C'est pas quelque chose qui est ronron tout à coup. Il a des chutes,
il a des cassures
et ça renforce encore le côté poétique, dramatique.
C'est extrait d'un album qui a plus de 30 ans, 35 ans en fait. C'est une bande originale puisque c'est paru en 1986.
Hein, ouais, c'est Parade. Moon.
Tout à fait, Parade. Et l'album est extrait d'une bande originale d'un film qu'il a réalisé lui-même d'ailleurs.
Under the Cherry Moon.
Tout à fait. Under qui se passe sur la Riviera, du côté de Nice. Hein, voilà, avec la belle Christy Scott Thomas. Voilà. Et c'est bien d'écouter un titre comme ça puisque. Il faut le dire quand même, dans cet album, il y a deux titres qu'on écoute, qu'on connaît principalement, c'est Kiss, forcément, et Girls and Boys. Donc voilà, les deux titres de cet album, connus et très très connus. Mais effectivement, c'est toujours sympathique d'écouter un titre comme Sometimes It Snow in April. On se retrouve après ça. J'ai compris ça, je comprends que ça vous fait rire, Marie-Hélène, les jingles de Principe Actif.
Oh bah j'adore, le pire est à venir.
Le pire reste à venir, effectivement, le pire reste à venir. Et ça ne casse pas trois pattes à un cadavre. Ça casse pas trois pattes à un cadavre. Et maintenant, je comprends parfaitement bien le fait que vous ayez retrouvé ce texte et qu'il soit édité, qu'il ait été édité il y a peu de temps, mais qu'il ait été écrit il y a quand même plus de 25 ans, cette histoire-là. Ça remonte...
23 ans, je l'ai écrit. J'avais 38 ans quand je l'ai écrit.
Ouais.
Donc, 23.
Effectivement, je me disais, tiens, on est dans une époque, ça, c'est marrant parce que ça, je ne le savais pas. Et je me disais, parce que, excusez-moi, mais j'ai quand même lu, j'ai lu le livre.
Ah, c'est vrai?
Ah ouais, je l'ai lu.
En entier?
Ah non, juste les trois premières pages.
Hein. Ah bah...
Non, je l'ai lu en entier. On reçoit les invités quand même à Principe Actif, on fonctionne comme ça.
Oh bah c'est
sympa. La moindre des choses.
Bon.
Et effectivement, je me suis dit, tiens, ou c'est atemporel, ou alors c'est vraiment bien voulu. On est dans une époque sans les internets, sans les smartphones, sans des choses comme ça, sans le câble, les 300 chaînes télé, etc. Parce que à aucun moment on mentionne, puisque forcément, je comprends, on est dans les années 80, 90, et donc ça se passe à cette époque-là. Ça casse pas trois pattes à un cadavre. On peut décrire un petit peu, on peut parler que c'est effectivement Chloé, cette l'héroïne du polar, du roman, du polar, parce que c'est un polar un peu. On est à mi-chemin entre quoi? Entre Frédéric Dard, entre Série Noire, entre les Thierry Jonquet, entre. On met un petit peu de Fred Vargas, on met un petit peu d'Amélie Nothomb là-dedans. Qui on met?
Alors, on reste
MHD, tout simplement.
Oui, mais. Les gens qui écrivent ont quand même des influences.
Bien sûr.
Bon, ma première influence, c'est San Antonio. C'est papa qui me l'a fait découvrir. Voilà. Ensuite, Amélie Nothomb, j'ai adoré. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est bien, Amélie Nothomb, c'est merveilleux. J'ajouterai dans la soupe du Michel Audiard.
Mm-hmm, bien
Franchement,
sûr.
C'est... Oh, c'est tellement merveilleux, tout ça. Et puis, après, je me suis arrêtée là. Et puis, j'ai dit, maintenant... J'y vais.
Ouais.
Mais c'était en fait au départ faire un polar ensanglanté, mais léger, rigolo, un peu farfelu, voire décalé. C'était comme ça venait.
Mais cette héroïne, Chloé, je reviens sur Chloé, parce que c'est l'histoire, en fait. Hein, voilà, elle découvre. Hein, voilà, il y a un mort, elle le découvre, et puis, en fait, elle mène son enquête, hein, parallèlement, et puis après, en compagnie d'un policier. Mais effectivement, il y a plein. Est-ce qu'il y a des similitudes avec MHD? MHD et Chloé?
Oh bah oui. Alors d'abord, je me suis évertuée à lui trouver un nom qui pour moi est drôle puisqu'elle s'appelle Chloé au mur. Donc ça y est, tout le monde y est là, s'il vous plaît.
Forcément,
oh, Chloé au mur.
C'est quand même ça revient assez récurrent dans ce roman. Bon. Il y a beaucoup de références, de jeux de mots, de petites choses. Voilà, il faut avoir les références quand même. Hein, parfois.
Il faut avoir quelques références.
Quelques notions, j'ai envie de dire.
Oui, mais ce que j'ai voulu faire surtout, c'est quelque chose qui soit compréhensible à différents niveaux, sans que ça gêne le déroulé du livre. Ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce qu'après tout, on n'a pas tous le même niveau de culture. Moi, si vous me parlez de rock'n'roll, je peux vous assurer que dans deux minutes, je dors, quoi. D'abord, j'aime pas ça. Et ensuite, j'ai aucune référence. Oui, les Rolling Stones, ah bah dis donc, avec ça, je vais aller loin. Bon
donc, c'est déjà bien.
Oui.
Déjà, bon. Ils ont fait quand même quelques albums.
Oui, quelques albums.
quelques concerts aussi.
Oui, quelques concerts. Bon, des petits, hein. Bon.
Oui, 300 000 personnes.
Rien du tout. Et voilà, donc je voulais quelque chose qui soit accessible à tous, qui soit drôle, qui embarque un peu dans ce style. Voilà, donc oui, il y a des choses. En fait, le démarrage du livre, c'est Marie-Hélène Dupoux qui a un chef... qui est absolument insupportable, et ça c'était partagé par tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui le connaissaient, il mettait le nez dans votre foulard le matin pour vous dire bonjour, il vous tenait par la taille pour vous emmener...
Bah, c'est ça un peu, oui, ça reflète un petit peu ça aussi, on le sent, sans faire de jeu de mots, on le sent bien, effectivement, et c'est pour ça que je me dis, tiens mais ça c'est quand même étrange... Oh. À l'heure du MeToo, etc., aujourd'hui, comment se fait-il que on est ça? Mais on le comprend parfaitement bien.
Mais on l'avait déjà, nous.
Il y a plus de 25 ans, il y a 25 ans, 23 ans.
Oui. Et celles qui n'ont pas pris la précaution d'être vraiment très strictes avec lui ont eu des problèmes parce que lui, il n'interprétait pas
bien sûr.
Leur gentillesse, leur sourire. Lui, il était déjà parti sur une autre planète, sur la sienne, quoi. Et comme il était quand même plutôt agaçant avec tout ça, il n'était pas mauvais bougre au départ, non, c'est clair, mais il était quand même un peu... Bon. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de celui-là? Eh ben, je vais le tuer.
Directement, mais avec la plume.
Avec la plume, avec les plumes aussi, puisqu'il finit, vous avez vu ce que j'en fais, un morceau de roast beef avec des plumes de paon plantées dans le cul. Et alors, c'était extraordinaire, parce qu'à chaque fois que je le croisais dans les couloirs, je me disais... Toi, je t'ai mis des plumes dans le cul, chérie.
Eh bien, voilà, exactement. Eh bien, faut pas trop en dire non plus, hein, parce qu'on a une heure de grande écoute aussi.
Mais que ça donne... vu la façon dont ça se passe aujourd'hui...
Vous croyez?
Ah oui, je pense que je suis encore dans les standards.
Alors, dites-moi, MHD, est-ce que c'est difficile de reprendre un texte d'il y a 23 ans et est-ce que vous l'avez modifié légèrement, transformé un peu, ou il était écrit comme ça et brut, il a été édité comme ça?
Alors ça, c'est une vraiment très bonne question, parce que quand
Parce que les autres n'étaient pas terribles, je dois le reconnaître.
Pardon ?
Je dis, parce que les autres n'étaient pas terribles, je dois le reconnaître.
Les autres...
Question.
Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment une c'est vraiment une excellente question, parce que, j'insiste, parce que c'est vrai que la relecture, c'est une plaie, mais une plaie qui ne... Bon, alors je relis, je trouve des trucs pas terribles, et je veux changer les phrases, je veux tout changer. Enfin, je m'en sors plus, et là, j'ai vraiment le coup de fil salvateur de l'imprimeur que je connais et qui me dit, écoute Marie-Hélène, j'ai un gars qui relit vachement bien, parce que je voyais bien que j'y arrivais pas, quoi. Ben, je lui dis d'accord, je te fais confiance, allez on y va. Et lui, il a quasi rien changé, quoi. Martial, Martial le lecteur,
bien sûr.
Martial Ménadier. Et lui, il a quasiment rien changé. Donc d'abord, il a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes d'orthographe. Ensuite, il a trouvé que ce n'était pas trop mal fait. Enfin, il s'est bien amusé, ce qui est en fait le but du livre. C'est de rigoler, quoi.
Ah bah oui, bon. Parce qu'on est dans de l'humour noir, on est quand même. Moi, je dirais qu'on est dans du grand guignolesque aussi.
Oh bah complet.
Hein, c'est ça.
Complet.
Et effectivement, alors je reviens sur les références. On nomme pas véritablement les noms. On a toujours des pseudos, des machins, c'est pas vraiment le vrai nom, le vrai prénom. Mais il y a toujours une référence aussi sur. C'est bien fichu aussi.
Merci.
Les personnages, comme ça, on se retrouve avec eux. Alors, même s'ils ont disparu, parce qu'ils sont plus de ce monde, mais toujours, ils reviennent et avec des changements dans la définition, la description aussi, en fonction du continuum de l'histoire, en fait.
Oui.
C'est ça aussi l'idée.
Oui, l'idée, c'est de toujours maintenir le lecteur éveillé, c'est plus sympa. qu'il ait envie de continuer à lire jusqu'à la fin, en se disant mais qui, mais comment, mais pourquoi, etc. Donc j'espère que c'est réussi.
Mais le film, ça pourrait être un scénario aussi. Hein.
Oui, j'y ai pensé.
Carrément.
Mais même une série, parce que j'ai déjà écrit le deuxième. Qui s'appelle Vous verrez bien, quand je vais être édité.
Marie-Hélène, MHD, on est en direct avec vous. On parle de votre livre, Ça casse pas trois pattes à un cadavre. Je vous propose de faire une pause avec la chronique de l'ami Fred, Mr. Fred, et on se retrouve tout de suite après, parce qu'il a des choses à nous dire. Et puis c'est la dernière en plus, il va voler de ses propres ailes après. On y va. Mr. Fred.
J'avais très peu d'infos sur l'autrice présente ce matin. Alors j'ai décidé de vous faire une petite chronique sur une expression bien connue pour se moquer de quelqu'un, alors que l'histoire est vraiment tout autre. Cela parle de handicap, d'asile, de préjugés, de méconnaissances, d'extrapolation. C'est parti. Au 19e siècle, près de 20 000 crétins, personnes stupides en langage courant, peuplaient les Alpes françaises et intriguaient les touristes. Crétin des Alpes n'a pas toujours été une des insultes favorites du capitaine Haddock. Au 19e siècle, l'expression désignait une réalité médicale. Avec le développement du tourisme, la bourgeoisie urbaine découvre le sublime des sommets alpins, en même temps que les handicaps physiques et mentaux de nombre de ses habitants. Petits en taille et incapables d'intelligence, près de 20 000 crétins peuplent alors les Alpes françaises et intriguent les touristes. Jusqu'en 1922, les médecins n'arrivent pas à expliquer les causes de cette infirmité. Les hypothèses foisonnent et les traitements aussi. Ce sont finalement des médecins suisses qui vont isoler la véritable cause de la crétinerie, le manque d'iode dans les terres alpines éloignées de la mer. Cela fait dysfonctionner la thyroïde et bloque la croissance humaine. Avec cette découverte, la pathologie est ensuite rapidement éradiquée. Entre-temps, les crétins des Alpes sont devenus partie intégrante du folklore alpin, affiché dans les cartes postales que s'envoient les touristes. Aujourd'hui, ils ont disparu, mais l'expression a survécu. Antoine de Bac, historien passionné par la montagne et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, a retracé ces événements dans un livre, Histoire des crétins des Alpes, paru aux éditions Vuibert en 2018. Il y a différentes étymologies du mot crétin possible. Cela peut dériver du mot chrétien, puisqu'ils étaient bien intégrés à la communauté paroissiale, ou bien du mot kreid, en allemand qui signifie craie, et pourrait décrire le côté crayeux du teint. Dès l'an 1000, des sources médicales et religieuses attestent de leur présence dans les Alpes. Les prêches défendent ces êtres vus comme des figures de la province. Avec les colonies, les Alpes constituent l'autre terrain de jeu privilégié des élites européennes. Les premières infrastructures hôtelières voient le jour, l'alpinisme se développe. Les crétins des Alpes deviennent alors une figure importante des récits de voyage. Car au sein des paysages grandioses que découvrent les voyageurs, les crétins font tache. C'est le monstre au milieu du sublime. Dans le folklore alpin, ils apparaissent comme des contre-exemples étranges et inexplicables du montagnard libre. Il y a aussi une autre interprétation qui apparaît sous la plume des voyageurs. Les crétins seraient des êtres authentiques, préservés du progrès et de la modernité. Cela donne un sens à leur handicap. Chez Flaubert ou chez Hugo, par exemple, on trouve cette confrontation entre le touriste, un être artificiel qui cherche à gravir les sommets, et le crétin qui résiste par ses limites à la mise en tourisme des Alpes. Face à un monde qui va de plus en plus vite, le crétin détonne par son inertie. Les crétins ont donc, pour certains poètes et écrivains, une portée idéologique anti-modernité. D'ailleurs, cette image a perduré jusqu'à aujourd'hui car un groupe de rock intitulé Les Crétins des Alpes, les L-A-I-D-S, revendique une sorte d'anarchisme anti-touristique. Pendant près d'un siècle, les médecins ne parviennent pas à trouver la cause du crétinisme. Plusieurs hypothèses sont alors émises. Il y a celle du climat, selon laquelle des masses d'air humides stagneraient au fond des vallées et influenceraient le développement humain. Il y a la thèse raciale, le crétinisme serait une forme de dégénérescence de la race alpine, une étape intermédiaire dans l'évolution. D'autres l'expliquent par la consanguinité ou bien le manque d'hygiène dans ces vallées reculées ou encore la mauvaise qualité de l'eau. Autre hypothèse, les terres alpines étant éloignées de la mer, le crétinisme proviendrait d'un dérèglement de la thyroïde causé par un manque d'iode. Cette déficience provoquerait la poussée d'un myxiodème derrière le crâne qui bloquerait le développement humain. Dès le début du XXe siècle, on sait que cette dernière thèse est la bonne. En quelques mois, on constate un arrêt du développement du crétinisme. C'est un cas d'école de santé publique. Il est rare de trouver une solution aussi simple à un problème si important. Mais avant de trouver le remède, les médecins tentent de guérir les crétins en les enfermant dans des asiles. En Suisse et en France, des instituts spécialisés regroupent les crétins dans des asiles et tentent des remèdes à base de chocs électriques, d'eau glacée ou même de sons pour éveiller leur sensibilité. On tente même de les faire chanter dans des chorales. Au moment où les crétins disparaissaient, l'insulte commence à mener une existence active dans la mythologie. Les milieux politiques l'ont beaucoup utilisé, notamment dans les années 20 et 30, pour désigner un adversaire. C'est ainsi qu'en 1940, Hergé la met dans la bouche du capitaine Haddock pour l'adresser principalement au professeur Tournesol. Voilà, je voulais aussi vous dire que je vais bientôt arrêter les chroniques. Cela fait maintenant plus de 2 ans à raison d'une petite cinquantaine. Je vais me diriger vers d'autres projets, mais je ne manquerai pas de revenir faire quelques présences pour revoir l'équipe et les auditeurs de cette super radio. Et je voulais remercier tout particulièrement notre ami Jean-Jean qui m'a permis de réaliser toutes ces belles chroniques. Je vous embrasse toutes et tous. Bonne fin de semaine.
Ben merci l'ami Fred qui a décrété qu'il quittait ses chroniques au sein de Principe Actif. Alors moi je croyais que les crétins c'était les habitants des Crêtes, mais pas du tout. On est loin quand même de la bourgeoisie parisienne où se déroule un peu cette intrigue policière et milieu. Hein, là, on est le fin fond des Alpes. Mais des crétins, il y en a partout aussi, visiblement. Visiblement.
Ouais. Je connaissais pas du tout cet épisode, l'épisode qu'il raconte. C'est un peu terrible de voir qu'il finissait en cobaye, un peu. Enfin, ça, c'est. Mais bon, finalement, ils n'étaient pas crétins.
Finalement, tout à fait. Nous sommes en direct jusqu'à 9h, 8h, 9h, c'est la matinale du matin qui va bien, c'est le pire reste à venir. En présence de Marie-Hélène Dupoux, alias MHD, autrice, ça casse pas 3 pattes à un cadavre, effectivement. Je rappelle, vous êtes avocate et l'écriture, c'est votre passe-temps favori, dans un style résolument libre, juste pour distraire ses lecteurs. C'est important de distraire... Dans ce monde de brut, on a besoin aussi de s'accrocher à un livre et puis de pas pouvoir d'aller jusqu'au bout, quoi.
Oui, c'est ça. Bah, c'était la volonté que j'avais. J'espère que j'y arrive. Peut-être il y a des gens qui aimeront pas ce style parce qu'ils y sont pas habitués ou parce que c'est pas leur tasse de thé. Ça peut exister aussi. Mais ce que je dis, c'est vrai. J'écris pour distraire. Je trouve que c'est d'abord c'est amusant à écrire. Ensuite, je me prends pas pour une philosophe, etc., etc. Je suis juste ce que je suis et je fais ce que j'aime bien faire. Et puisque l'écriture permet d'être libre à un point insensé, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec l'écriture, eh bien, j'ai décidé d'en profiter à fond.
Mais vous le disiez à l'instant, ça part, cette aventure, ça part de quelque chose qui vous concerne, vous, puisque voilà, un chef aillon, entre guillemets, un peu, c'est compliqué. Il y a une vingtaine d'années au sein d'une structure dans le cadre de votre profession. Et qu'est-ce que. Je vais pas me venger en vrai, quoi, mais je vais sortir le stylo ou la machine à écrire à l'époque, ou déjà l'ordinateur, bon, effectivement. Et puis, voilà. Je vais me défouler, quoi.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et parfois, je vais même jusqu'à la colère, ce qui me permet d'atteindre des sommets de plénitude.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Parce que c'est pas une colère qui est dirigée contre quelqu'un qui me fait monter. Mm-hmm. Et après, il faut deux jours pour redescendre quand on a fait une grosse colère. C'est vraiment quelque chose d'organisé dans ma tête pour faire rigoler.
Est-ce qu'on se dit aussi, ah ben non, ça, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, jusque-là. Ah, puis allez, j'y vais quand même. De toute façon, ça passe, hein. Ça passe ou ça casse dans l'écriture.
Je me suis jamais posé cette question, j'y vais. Le propos, c'est quand même de rester lisible, entre guillemets, que ce soit pas juste de la liberté bête, comme sauter du haut d'une colline en pensant voler, quoi. Voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Alors je m'arrête quand je trouve que c'est plus drôle ou franchement déplacé mais enfin, déjà, j'attaque bien les limites.
Oui, vous avez un style qui est à vous, hein, bien particulier, effectivement. Tout à l'heure, on disait, il y a du San Antonio, il y a du Audiard, ce sont des références, en règle générale. Qui n'aime pas Audiard, qui n'aime pas San Antonio
Eh bien, il y en a.
Bon.
Au moins San Antonio, parce que lui, il est quand même compliqué à lire, hein, parce que si vous n'avez pas, si vous parlez pas un minimum argot, au bout de...
C'est compliqué.
Oui.
Ou alors, il faut avoir le petit dictionnaire d'argot à côté, puis...
C'est comme si vous lisiez un livre en anglais, quoi. Mm-hmm. Ça n'a pas de charme, parce que si à chaque
on
mot vous
trébuchez,
il n'y a plus personne.
Ouais.
Et alors ça vient de papa, parce que du fait de son métier, il allait au hall.
Bien sûr.
Alors, il parlait louchébème, le langage des bouchers.
Oui.
Donc, boucher, on enlève le B, vous mettez un L au début du mot, et le B, vous le rajoutez à la fin, avec une terminaison. Louchébème, loi Turvic pour la voiture.
Ça fait partie de votre écriture, parce que ça, dans votre livre.
Mais bien sûr, parce qu'en plus, comme j'ai été caissière dans une boucherie, ils ont complété ma formation pendant que je faisais mes études. J'ai été 15 jours ou un mois caissière dans une boucherie pendant l'été. Et donc, ils se parlaient tous en louchébème. J'ai dit, mais attendez, je vais pas tenir un mois à rien comprendre de ce que vous dites. Apprenez-moi, je connais le fonctionnement, mais après, la pratique, je l'ai pas.
C'est compliqué, oui.
Et le mot loufoque, c'est quoi, loufoque? C'est du louchébème.
Ça vient de louchébème.
Vous enlevez le L, vous remettez le F de phoque, et ben ça fait fou. Et vous enlevez le F, vous mettez le L, ça fait louf, avec le F qui arrive derrière, et vous mettez une terminaison, cette fois c'est hoc.
C'est principalement une tradition orale.
Oui.
Est-ce que c'est compliqué de l'écrire, justement, parce qu'on retrouve des termes comme ça dans votre, livre.
Ça s'écrit pas, normalement ça se parle, mais j'ai pas fait une phrase entière. Ils vont tous s'endormir, c'est pas possible.
Des petites choses
Voilà, il faut savoir comme parfois que loufoque, c'est du louchébème.
Et ben voilà. Elle s'appelle Chloé au mur, déjà, hein, on plante le décor, si je puis me permettre. Elle est cadre supérieure dans une grande entreprise, n'y voyez pas de quoi que. Elle se trouve mêlée directement, mais par le plus grand des hasards, au meurtre de son chef.
Ah, enfin seul.
Il l'avait bien mérité. Un assassinat très spectaculaire dans le parking de l'entreprise, du jamais vu. Menacée, elle choisit de mener personnellement l'enquête, effectivement. Voilà. Bon, après, on va pas non plus dévoiler comment ça se déroule,
si
cette histoire.
Si vous permettez, je prends juste 30 secondes pour dire qu'elle mène cette enquête avec Philou Lemoine.
Ouais.
qui est inspecteur, j'ai trouvé ça très drôle qu'un inspecteur soit filou ou bien soit le moine. Alors,
mais tout est comme ça en fait dans le livre.
Hein, oui, c'est ça.
Pour revenir un petit peu, il y a toujours des petites références ou des petits jeux de mots, des petites choses qui font que le personnage, on le visualise tout de suite.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà. C'est où est-ce qu'on peut se procurer votre livre « Ça casse pas trois pattes à un cadavre, collection Le Parc » ?
Eh bien, pour l'instant, je ne suis référencée dans aucune...
C'est pour ça qu'on vous invite.
Bah oui.
Bah oui.
J'ai déposé un livre chez Cultura, j'en ai déposé un autre chez Gibert.
Et... Un site peut-être, ou alors une adresse ou un quelque
alors,
chose
l'adresse,
pour nos auditeurs qui souhaiteraient se procurer votre bouquin.
Pour l'avoir en ligne, c'est la collection Le Parc.
Collection Le Parc.
Et on peut faire MHD. Il y a un lien, mais je ne l'ai pas là.
D'accord.
Mais, et puis, comme je suis sur Facebook sous mon vrai nom, Marie-Hélène Dupoux, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé.
Et, ben,
et
voilà.
Puis, à l'occasion, on se voit, je vous fais une dédicace. Et
ben,
puis, voilà.
Et ben, écoutez, en tout cas, merci infiniment. Merci d'être passé par les micros de Principe Actif. Il est 9h, on va rendre l'antenne.
C'est moi qui vous remercie.
Un plaisir.
Pour moi aussi. Un grand plaisir.
Allez, au revoir. Et puis, là, on prend un peu de vacances et on se retrouvera un petit peu plus tard en ce qui me concerne. Mais demain, après-demain et après-après-demain, il y a encore les matinales. Salut, salut!